Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 11h30 en temps universel, 13h30 à Paris.
Édition spéciale sur RFI.
Michael Ponge.
350 députés de La République En Marche plus ceux du Modem. Après l'Élysée, la vague Macron emporte donc l'Assemblée nationale. Majorité absolue, massive pour le président de la République, mais a-t-il pour autant les mains libres? Que retenir de ces législatives en France? Quelles conséquences pour les partis traditionnels? Les Républicains sauvent les meubles, PS s'effondre. Quelle perspective pour la France insoumise qui réalise une percée? Et le Front National qui dispose désormais de 8 élus au Palais Bourbon. Édition spéciale sur RFI jusqu'à 14h avec nos invités. Hugues Ranson, nouveau député de la 13e circonscription de Paris, sous les couleurs de La République En Marche, bonjour.
Bonjour.
Et je le précise, ça a son importance, vous êtes un ancien Chiracien. À vos côtés, Philippe Moreau, Chevrolet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, cofondateur de l'agence de conseil en communication MCBG Conseil. Pour nous accompagner également, Guillaume Nodin, du service politique de RFI. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Frédéric Couteau, qui a lu la presse pour nous ce matin. Frédéric, la presse est unanime, la révolution Macron est en marche.
Après l'Élysée, l'Assemblée, c'est le grand titre du Figaro. Le Figaro qui n'en revient toujours pas. En deux élections et quatre tours de scrutin, la révolution en marche, à laquelle personne ne voulait croire, a déferlé sur la France comme un tsunami. La gauche, la droite, les extrêmes, tous les monuments qui balisaient depuis des lustres notre paysage politique ont été sinon submergés, du moins profondément ébranlés. Sur les décombres de ce monde ancien, une génération politique profondément renouvelée prend les rênes du pouvoir législatif, comme elle a pris hier celle du gouvernement. On a beau s'habituer à tout, renchérit Libération, la séquence électorale qui s'est achevée hier soir est toujours aussi extraordinaire. Il y a un an, Emmanuel Macron n'avait rien, ou presque, dans la République, sinon un fragile Marocain, dans un gouvernement en bout de course. Aujourd'hui, il a tout. Il y a à peine un an, en effet, rappellent les échos, ce 12 juillet 2016, on se presse à la Mutu, à la salle de la Mutualité à Paris, on vient voir l'insolent qui défie le chef de l'État à la veille de son 14 juillet. Nous commençons à écrire une nouvelle histoire, lance Emmanuel Macron, alors encore ministre. Notre système politique est usé, nous allons en changer, nous sommes vous. On sourit à tant d'audace, à peine un an plus tard donc, pointe le quotidien économique, l'insolent est devenu président et remporte les élections législatives. Il achève cette histoire. L'ancien monde a largement disparu. Les personnalités sont pour beaucoup évincées. L'opposition est affaiblie et morcelée. Des inconnus arrivent en masse. Les élus n'ont plus de profil politique, mais ils sont société civile. On dirait qu'un grand vent, conclut les échos, a ravagé le paysage.
Attention, toutefois, tempère bon nombre de journaux hein, ce matin, les bases de ce succès sont fragiles.
Les Français n'ont pas donné une carte blanche au nouveau président, note l'Union, l'ampleur inédite de l'abstention enregistrée à un scrutin législatif sous la Ve République témoigne d'un laisser-faire, d'un désintérêt ou d'une indifférence préoccupante envers la vie de la cité, creuset et vitalité de la démocratie. Le gouvernement ne peut pas faire comme si la victoire était exceptionnelle. Il se doit d'être humble et méthodique pour ne pas être vite bousculé par la rue. En effet, tonne l'humanité. Emmanuel Macron détient les pleins pouvoirs à l'Assemblée, mais le pays ne les lui a pas accordés. Les 58% d'abstention, un record absolu pour des législatives sous la Ve République, signent un tremblement de terre démocratique, une motion de défiance à l'égard de l'édifice politique qui se dessine.
Finalement, relève le journal de la Haute-Marne, les résultats d'hier ne sont pas un aboutissement pour Emmanuel Macron.
Oui, juste le point de départ d'une course qui est loin d'être gagnée et qui laisse, c'est la seule certitude, le champ politique en ruine. Tout est à reconstruire dans tous les sens du terme. C'est un triomphe en trompe-l'œil, insiste pour sa part Lacroix. Ambitieux pour le pays, stratège désireux d'aller vite. Emmanuel Macron devra combiner audace et précaution. Concentrant beaucoup de pouvoir, il lui faudra organiser le débat au Parlement et veiller en permanence à la concertation avec les syndicats, les grandes organisations de la société civile et les représentants des religions. Contrairement aux apparences, il ne dispose pas d'un blanc-seing. Alors l'avenir sera-t-il radieux ? Innovateur, s'interroge l'Est républicain. Pour mettre en œuvre son programme, il lui faudra à la fois de l'audace et une fermeté insoupçonnée, tant le troisième tour se jouera dans la rue. Une chose est certaine, les tribuns radicaux qui ferrailleront à l'Assemblée se démèneront jour et nuit pour pulvériser la parenthèse enchanteresse de l'OVNI Macron.
Merci Frédéric Couteau. Une réaction, Philippe Moreau-Chevrolet. Succès aux bases fragiles, disait-on, 57% d'abstention. Est-ce que c'est une Assemblée mal élue ?
D'abord, c'est un succès électoral, hein. Il faut quand même admettre les choses. C'est un succès électoral incontestable. Il a une majorité absolue. Il a même la majorité, Emmanuel Macron, sans ses alliés du Modem, ce qui était quand même pour lui une épine dans le pied. Donc s'il veut vraiment être Jupiter, il peut demain décider de bien ne pas reconduire Bayrou au gouvernement, se passer même de Marielle de Sarnez, qui sont par ailleurs frappés par des affaires. Il peut tout faire. En fait, il a les mains libres. Il faut se souvenir qu'il est quand même moins puissant que ce qu'était, et ça relativise, François Hollande en 2012. François Hollande, quand il a accédé au pouvoir, il avait le Sénat, ce qui était historique, l'Assemblée nationale, les régions, les municipalités, enfin il avait vraiment quasiment les pleins pouvoirs dans le pays, ce qui ne s'était jamais produit. Là on est dans une victoire et dans une dimension plus modeste, parce que précisément tout est à construire, il n'a pas de parti vraiment pour l'instant, puisque c'est un parti en constitution. Le parti, là où il y a de les fragilités, c'est qu'effectivement il y a une abstention très large, qui tient aussi au
Comment
fait que
Comment vous l'analysez cette abstention? Est-ce que c'est le signe d'une lassitude ou un problème institutionnel plus profond?
Il y a les deux. Il y a le fait que certains électeurs se sont retrouvés face à un non-choix. Enfin, aller départager El Khomri et Bournazel à Paris, alors que l'un est soutenu par le Premier ministre et l'autre par le Président, c'est compliqué. Donc il y a ça, mais il y a aussi surtout une logique plébiscitaire des élections législatives. On les a placées tout de suite après la présidentielle. Finalement, on a déjà fait le choix. Pourquoi retourner aux urnes pour donner une majorité différente? Non, ça n'a pas vraiment de sens. Donc on a aussi vidé les législatives de leur sens.
Victoire donc de la majorité présidentielle, victoire modeste. Écoutez ce qu'on disait dès hier soir Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement.
On peut interpréter cela comme une responsabilité supplémentaire et ça permettra à Emmanuel Macron et Édouard Philippe de ne jamais oublier qu'au fond, il n'y a pas de victoire ce soir et que la vraie victoire, ce sera dans 5 ans, quand les choses auront vraiment changé. À ce moment-là, nous pourrons parler de victoire.
Hugues Ranson, ce n'est pas le raz-de-marée attendu. Vous êtes donc un nouvel élu de cette République En Marche. Vous le prenez comment, ce résultat, comme un avertissement?
Non, on le prend déjà avec une vraie satisfaction. L'enjeu de cette élection législative, c'était de pouvoir donner une majorité au président de la République pour agir. Je crois qu'aujourd'hui, il a une majorité, vous venez de le dire, une majorité stable, une majorité solide pour pouvoir engager les réformes indispensables pour le pays. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un deuxième élément qui caractérise ce scrutin, c'est l'abstention. Et l'abstention, personne ne peut s'en réjouir. On peut l'expliquer, ça a été dit, il y a un phénomène de lassitude. La campagne électorale a été très très longue. Elle a commencé avec les primaires de la droite, les primaires de la gauche, la présidentielle, maintenant la législative. Au-delà de la lassitude, je crois qu'il y a aussi une forme de résignation, vous l'avez dit, de certains électeurs qui n'avaient pas forcément envie de choisir, sans forcément vouloir par ailleurs faire obstacle à Emmanuel Macron, parce qu'il faut lui donner sa chance. Et puis il y a une crise de la politique dans ce pays, il y a une fracture qui s'est construite, qui est béante entre la classe politique, les partis politiques traditionnels, les professionnels de la politique et un électorat qui est déboussolé. Et quand on regarde ces résultats, à la fois la victoire de La République En Marche et le fort taux d'abstention, on peut en déduire aussi que ce sont les formes d'expression politique traditionnelles qui n'ont pas suscité l'adhésion.
Hugues Ranson, face à vous dans ce nouvel hémicycle, puisque vous êtes donc un de ces nouveaux visages, beaucoup de nouveaux élus, une assemblée qui est également, donc, en plus d'être renouvelée, très féminisée. Guillaume Nodin, c'est l'un des enseignements de ce scrutin.
Oui, 223 femmes entrent à l'Assemblée nationale, ça fait 39% des effectifs des 577 députés, c'est évidemment le record, puisqu'on a cessé de progresser depuis des années, mais là il y a vraiment un gap, comme dirait Hugues Ranson, qui a été franchi dans la féminisation de l'Assemblée nationale. Il y a un rajeunissement aussi, on est passé d'une moyenne d'âge de 54 ans à 48 ans, et le renouvellement, il est quand même bien réel. Il y avait déjà 30% des députés de l'Assemblée sortante qui ne s'étaient pas représentés, pour cause notamment de loi sur le non-cumul des mandats. Ils avaient choisi en général leur mairie. Et finalement, sur les 577 députés de l'ancienne Assemblée, il n'y en a que 140 qui réussissent à passer la rampe. Donc il y a un renouvellement profond de cette Assemblée nationale. Renouvellement, rajeunissement et féminisation.
Renouvellement avec donc des nouveaux élus de La République En Marche qui vont participer très prochainement un séminaire, car beaucoup ne sont pas habitués, on le disait, aux heures de la République. Ce n'est pas votre cas. Vous avez été conseiller de Jacques Chirac entre 2004 et 2007. Néanmoins, donc, nouvel élu dans cette assemblée. Qu'est-ce que c'est, ce séminaire? C'est le vadémécum du nouvel élu, le doigt sur la couture?
Non, pas du tout. Je crois que, au contraire, au début de toute aventure, il faut savoir expliquer ce que sont les objectifs qui sont poursuivis, expliquer la méthode de travail qui va être la nôtre. C'est un séminaire de mobilisation. C'est un séminaire aussi où on va faire connaissance. Nous venons d'horizons différents, d'horizons politiques, d'horizons professionnels différents. Et on va avoir ce temps d'échange pour partager, je vous l'ai dit, la méthode, les objectifs, et puis pour pouvoir avoir aussi la feuille de route qui va être déterminée par le chef du gouvernement, Édouard Philippe.
Comment imaginez-vous, Granson, votre rôle de nouveau député ?
Vous savez, alors, parlementaire, traditionnellement, il a deux missions, celle de voter la loi d'abord et celle de contrôler le gouvernement par ailleurs. Puis Emmanuel Macron a indiqué pendant la campagne présidentielle qu'il souhaitait ajouter une troisième mission qui était celle de rentrer dans une culture d'évaluation, de changer la nature même du travail parlementaire pour pouvoir à la fois se fixer des objectifs, des indicateurs de réussite, et puis pouvoir évaluer en aval les politiques publiques pour pouvoir avoir un travail parlementaire plus efficace. Ma position dans cette majorité, ce sera évidemment d'être fidèle à cette promesse du président de la République, de participer à l'animation de cette équipe, de pouvoir porter les réformes qui sont utiles pour le pays. Et puis, je crois qu'on sera dans un groupe qui va essayer de faire les choses autrement, parce que le renouvellement, c'est le renouvellement des visages, bien sûr, et on y participe, vous venez de le rappeler, mais il y a aussi le renouvellement des pratiques politiques, des usages de la politique, et on va justement être dans un travail plus collaboratif, plus participatif avec les électeurs des circonscriptions. J'ai indiqué vouloir mettre en place un comité consultatif de circonscription pour pouvoir justement associer les citoyens au fil du mandat parlementaire, parce qu'il faut renouer la confiance, cette confiance qui s'est dissipée entre les gouvernants et les gouvernés, entre les représentants et les représentés, et donc on va s'y atteler.
Fidèle à la ligne du président Macron, vous venez de le dire, Philippe Moreau-Chevrollet, est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même pour Emmanuel Macron, avec une assemblée, une victoire aussi large, de voir émerger peut-être, on va les appeler les frondeurs, des frondeurs, ses propres frondeurs à lui?
Oui, il y a un risque. Alors, on pense déjà au Modem, parce que le frondeur naturel numéro un, c'est Bayrou, hein, qui, lui, s'imagine déjà plus président que ministre. Il n'est que ministre. Hein. Donc, il y a un risque que le Modem prenne son autonomie un jour ou l'autre. C'est là où les élections sont une bonne nouvelle pour Macron, en ce sens que il peut se passer de cet apport du Modem. En termes d'image, ce serait évidemment pas très bon. Et puis, surtout, ça ferait une vraie opposition nourrie à l'Assemblée, qui pourrait peut-être s'adosser à la droite, et du coup, créer un bloc un peu plus soudé. La vraie question, c'est quand même quelle politique va être menée et à partir de quelle ligne on va pouvoir s'opposer, parce qu'en réalité c'est ça que la question que tout le monde se pose. Là où il est aidé, encore une fois, c'est qu'il a des ténors qui rentrent, mais des ténors qui sont pas des ténors de la majorité gouvernementale ou de la minorité gouvernementale, des ténors du type Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire qu'il aura des grandes gueules qui vont probablement phagocyter une grosse partie de l'opposition. Encore que, s'ils n'ont pas de groupe parlementaire, pour ce qui est de Marine Le Pen, sa capacité de nuisance va être limitée. Ça risque de pas se faire passer beaucoup au second plan, les vraies oppositions, les éventuels frondeurs. Il va falloir parler plus fort que Mélenchon ou Marine Le Pen. Accaparer les médias davantage qu'eux, ça risque d'être quand même assez compliqué. Il a les étoiles alignées quand même, Emmanuel Macron, depuis le début de cette séquence électorale.
Ceux qui promettent de parler fort aussi, c'est la droite. 350 députés donc pour la majorité présidentielle. L'opposition, elle, cette droite, elle a 117 sièges. Ça, c'est pour les Républicains. On ajoute les 18 centristes. Ça veut dire quoi, Philippe Moreau-Chevrollet? Ça veut dire qu'ils ont sauvé les meubles chez les Républicains?
Oui, ils ont sauvé les meubles. On s'attendait à une défaite beaucoup plus lourde. On s'attendait, en fait, le programme de Macron, c'était d'abord j'explose la gauche façon puzzle et ensuite je m'attaque à la droite. La gauche, ça a très très bien marché. Il a fait une OPA sur toute la nouvelle génération, que ce soit les nouveaux du MJS qu'il a ralliés au sein d'En Marche, ou les anciens qu'il a virés, ou les gens comme Najat qui ont perdu. En fait, l'EPS n'existe plus politiquement, quasiment. Par contre, les Républicains, eux, maintiennent une structure, une certaine force. Donc là, oui, il y a un début, on a vu avec Ciotti hier, d'opposition systématique qui se met en place. Mais encore une fois, sur quelle base politique? Parce que s'il utilise, comme au judo, la force de la gauche sans plus d'opposition interne pour faire une politique de droite, ça va être difficile pour Ciotti de s'opposer frontalement. C'est ça l'interrogation de la séquence.
Et justement, donc cette famille républicaine, les Républicains qui est divisée justement sur la ligne à adopter. François Baroin, lui qui a mené la campagne pour ces législatives, est en tout cas ferme. Il se réjouit de pouvoir former un groupe. La ligne est claire, a-t-il dit hier soir. Écoutez.
Il appartiendra à ce groupe, dans le respect du nouveau pouvoir exécutif, de faire entendre nos différences avec En Marche, notamment sur le plan fiscal. Ce soir, je veux saluer et féliciter ceux qui sont élus. Malgré le contexte particulièrement difficile, ils ont réussi à faire gagner nos idées dans nos circonscriptions. Grâce à leur succès, ils porteront la responsabilité essentielle d'incarner la première force d'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Les Républicains, donc première force d'opposition, on vient de l'entendre. Néanmoins, il y a les constructifs, comme Thierry Soler, par exemple, qui disait bien oui, on pourra voter les lois proposées par le président Hugranson. Comment est-ce que vous allez vous positionner avec votre ancienne famille politique, la droite, on le rappelle, vous êtes un ancien chiracien. Ce sont des opposants ou des alliés d'opportunité?
Je crois qu'il faut être très clair quand on essaye de faire de la politique. Aujourd'hui, voilà, la vraie question, c'est que pense-t-il sur un programme? Que pense-t-il des mesures qui ont été annoncées? J'ai entendu pendant la campagne électorale présidentielle qu'il n'y avait qu'un seul programme, selon eux, qui pouvait sauver la France. C'était celui de François Fillon, et qu'ils avaient beau avoir un mauvais candidat, il fallait voter pour ce programme. Puis ce programme, après la défaite, a été dissipé, il s'est envolé, ils l'ont changé pendant la nuit. Voilà, ça nécessite un peu de clarification de leur part entre ceux qui veulent s'opposer et ceux qui veulent contribuer. Et évidemment, la démarche qui est la nôtre, c'est de pouvoir rassembler au plus large, je vous l'ai dit, rassembler au-delà des clivages traditionnelles et des oppositions systématiques parce qu'elles sont stériles. Et c'est parce qu'il y a ces oppositions systématiques que le pays n'a jamais été réformé. Donc si demain des députés, des Républicains veulent contribuer à la dynamique qui est engagée par le président de la République, ils sont évidemment les bienvenus. Mais il faut être clair en amont. Quand on nous dit qu'on va voter ce qu'il y a de positif, mais qu'on ne votera pas ce qu'il y a de négatif, je ne vois pas ce qu'il y a de révolutionnaire. Et précisément, si les parlementaires qui étaient en place jusqu'à présent votaient par le passé des textes auxquels ils ne croyaient pas ou qu'ils considéraient être négatifs, c'est vraiment une révélation. Moi, je pense que voilà, c'est normal qu'on s'oppose à des textes auxquels on ne croit pas.
Guillaume Nodin, une des clarifications dont parle Hugranson, on la verra peut-être au moment du vote de confiance au gouvernement?
Ça sera sans doute un moment clé. Il y aura des députés, notamment de la droite, qui hésitent, on le sait. Hein. On en a parlé à Thierry Soler. Mais la question, en fait, que moi j'aurais voulu poser à Hugranson, c'est est-ce que vous êtes en train de demander à ceux qui s'appellent les constructifs d'avoir été élu sous l'étiquette Les Républicains et de rejoindre directement là au moment du vote de confiance votre groupe parlementaire.
Je vous l'ai dit, je souhaite une clarification et c'est normal d'être clair quand on est élu de la République et il me paraît normal qu'ils puissent eux-mêmes préciser les textes et les domaines sur lesquels ils aimeraient contribuer et ceux de notre programme qui, c'est notre spécificité, n'a pas varié d'un iota entre la présidentielle et la législative, qu'ils puissent nous dire ce sur quoi ils pourraient s'opposer. Mais il faut le dire les choses clairement. Et puis, en effet, vous l'avez rappelé, il y a un vote de confiance. C'est un moment important de la vie politique. Et il va falloir se déterminer. La confiance à un gouvernement, c'est de lui accorder évidemment les pouvoirs pour gouverner, mais c'est aussi l'absence de vote, c'est une forme de défiance, et il faut à un moment donné rentrer dans une conception un peu manichéenne des choses. Font-ils confiance, oui ou non, à Édouard Philippe et à son gouvernement pour mener un programme de réforme dont le pays a besoin? Et c'est bien là l'essentiel, le pays a besoin de ces réformes, il a besoin de se transformer, de se projeter dans le 21e siècle, parce qu'on en est convaincu. Rien ne serait pire que l'immobilisme, et donc il va falloir contribuer, et le plus largement possible.
Le Parti Socialiste, lui, est laminé, seulement une trentaine de sièges, le PS contraint de faire son examen de conscience, une refonte complète, comme l'a reconnu hier soir Jean-Christophe Cambadélis, le désormais ex-premier secrétaire de ce PS.
La gauche doit tout changer, la forme comme le fond, ses idées comme ses organisations. La gauche doit ouvrir un nouveau cycle.
Philippe Moreau-Chevrolet, c'est quoi l'heure du règlement de compte, la grande refonte? Qui va diriger ce nouveau PS? C'est toutes ces questions qui se posent.
C'est aussi qui reste au Parti Socialiste aussi. Qui va en partir pour rejoindre En Marche? Parce qu'il n'y a pas qu'à droite que la question va se poser. On sait que le pouvoir attire beaucoup. Donc il y a quand même un aspect centrifuge. Hein. On ne sait pas très bien qui va rester au PS. Ensuite, Cambadélis s'en va, c'est un petit peu naturel. Il est quand même l'artisan. Bon, c'est beaucoup lui mettre sur les épaules que de dire qu'il est l'artisan de la défaite. Mais en tout cas, il en est le responsable formellement. Donc c'est aussi une question par rapport aux insoumis. C'est-à-dire que les insoumis, eux, montent en puissance. On a des figures nouvelles comme François Ruffin qui arrive avec tout un tas d'idées, de projets qui ringardisent beaucoup, hein, il faut le dire, les propositions même de gauche du Parti Socialiste. Beaucoup de frondeurs ont été battus.
Ça veut dire que la véritable épine dans le pied de Macron, ce sera plus Mélenchon à gauche?
Oui, c'est en tout cas, c'est à la fois la volonté de Mélenchon et celle de Macron. Donc, de ce point de vue-là, ils se rejoignent. Après, la volonté du PS sera d'exister, mais encore une fois, sur quelle base? C'est-à-dire, s'il se distingue d'En Marche, on aimerait bien savoir sur quoi. Alors, ce sera plus facile quand les premières mesures arriveront, parce que c'est vrai que sur le droit du travail, le fait qu'El Khomri ait été battu, c'est pas tout à fait un hasard non plus. Il y a aussi un refus, peut-être, un certain blocage d'une point de vue d'une partie de l'électorat PS sur ces réformes-là. Donc peut-être que ça va se réveiller à ce moment-là. Mais quelle est l'identité du PS? Quelle est même l'utilité du Parti Socialiste? Quel est le sens du Parti Socialiste en 2017? Ça fait bien longtemps qu'ils ne se sont pas posé cette question. C'est ça qui paye aujourd'hui. Macron, il a gagné. C'est une victoire à la Pyrrhus. C'est vrai, mais il a gagné aussi parce que le PS a refusé de se remettre en cause depuis des années et des années et des années. La droite a été beaucoup plus à l'écoute de son électorat, d'une certaine façon. Elle a été forcée de le faire avec la Manif pour tous et d'autres événements. La gauche a oublié d'écouter son électorat. Donc il y a une vraie question de retourner à la base, arrêter de parler la novlangue qu'on entend encore aujourd'hui chez les députés de refondation, congrès, enfin, tout un vocabulaire. Macron a ringardisé tout ça. Barouin le dit très bien. Depuis Macron, on a pris un coup de vieux. Il va être temps de repenser ce que c'est que la modernité de nos organisations.
Hugues Ranson, votre véritable opposition à gauche, c'est plus le PS, c'est Mélenchon dans cet hémicycle?
Écoutez, moi je pense qu'on vit une recomposition politique majeure. Je ne suis pas d'ailleurs sûr qu'on mesure aujourd'hui la portée de cette recomposition sur le long terme. Aujourd'hui, il y a plusieurs familles politiques, mais qui ne correspondent plus aux anciennes chapelles. Et à l'évidence, la famille de gauche, d'une gauche radicale qui serait ultra-keynésienne, quasiment même révolutionnaire dans certains points, elle n'est pas portée par le Parti Socialiste qui n'a pas su se remettre en question. La droite elle-même, le camp conservateur, n'est plus strictement lié à la famille des Républicains. On voit bien qu'il y a des passerelles, il y a même une séparation entre les Républicains eux-mêmes. Et ce à quoi on assiste, c'est qu'on a deux anciennes familles politiques, les Socialistes et les Républicains, qui ne correspondent plus à la réalité idéologique de ce qui était leur passé. On a au sein des Républicains des gens qui ne s'entendent pas et qui ne pensent pas la même chose sur l'Europe, sur l'économie, sur la justice sociale. Idem chez les Socialistes, on a des gens qui ne pensent pas la même chose sur l'Europe, sur l'écologie, sur l'économie, sur la justice sociale. Nous, on essaye précisément de créer un nouvel ensemble central où des gens qui n'étaient pas dans des familles similaires, mais qui pensent la même chose sur des problématiques de fond, sur ces sujets importants d'Europe, d'économie, de justice sociale, vont se rassembler. Et on est dans une logique vraiment différente, logique voilà qu'il faut porter. Aujourd'hui, on part d'une feuille blanche. On réinvente une grille d'analyse et une grille de lecture de la vie politique. Et je crois que voilà, il va falloir que chacun puisse se repositionner par rapport à cette réalité politique et institutionnelle. Parce que ce qu'il y a de formidable dans ce qu'on vit, c'est qu'on arrive à transformer profondément le système politique français, qu'on disait intouchable, sans varier le critère des institutions. Donc on bouge le système politique, mais on ne touche pas aux institutions. Je suis attaché aux institutions de la Ve République, et on voit que le système politique peut se transformer en profondeur et durablement, à la seule condition d'avoir de l'audace et de proposer aux Français un projet nouveau, un projet optimiste, positif. C'est ce qui a été fait par Emmanuel Macron.
La transformation, Marine Le Pen, elle aussi, elle le promettait durant cette campagne. La présidente du Front National, qui est élue dans le Nord, elle estime, malgré ses 8 députés donc, qui entrent à l'Assemblée, elle estime que le mode de scrutin ne la favorise pas. Elle l'a redit hier soir. Écoutez, Marine Le Pen.
Il est proprement scandaleux qu'un mouvement comme le nôtre, qui avait recueilli 7,6 millions d'électeurs au premier tour de la présidentielle et encore 3 millions au premier tour de ces élections législatives, ne puisse obtenir un groupe à l'Assemblée nationale.
C'est évidemment en dessous des prétentions, Philippe Moreau-Chevrollet, de Marine Le Pen. Ce résultat, malgré tout, quand même, il faut le dire, de 8 députés à l'Assemblée.
C'est à la fois bien pour le Front National dans l'absolu d'avoir 8 députés et à la fois très en dessous de ce qu'elle ambitionnait. Donc elle va devoir composer avec d'autres forces pour essayer de composer un groupe parlementaire. Elle a déjà commencé à faire un appel du pied à Dupont-Aignan hier soir, qui n'a pas été forcément bien accueilli, on verra. Donc elle va essayer de constituer un groupe parlementaire. Ce qu'elle a essayé de faire aussi au Parlement européen, c'est son premier acte. Là-dessus, après, elle représente une opposition naturelle, mais elle a fait une très mauvaise campagne. Elle a montré pendant le débat de l'entre-deux-tours qu'elle n'était pas vraiment au niveau d'une présidentielle. Ça a laissé beaucoup de dégâts quand même dans son camp. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être tentés de se dire « Ok, on a fait un bon score, on a fait une bonne progression, maintenant peut-être qu'il y a à reconstruire à droite ». Et on peut imaginer que la recomposition de la droite, cette fameuse fusion du Front National avec les Républicains, puisse se faire à ce moment d'étiage de la droite. Donc c'est possible qu'il y ait ce type de courant, un petit peu comme on voit à gauche, pour recomposer quelque chose.
Hugues Ranson, je vous vois acquiescer.
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on est à un temps de recomposition et que des familles politiques... Moi, c'est vrai qu'en écoutant, vous parliez d'Éric Ciotti tout à l'heure, de Laurent Wauquiez, je ne vois pas beaucoup de Nicolas Dupont-Aignan, de différence entre une droite républicaine qui s'est un peu déporté sur son extrême, en tout cas qui s'est radicalisé, et une extrême droite qui travaille depuis des mois et des mois à se dédiaboliser. Aujourd'hui, les frontières sont évidemment...
Mais
beaucoup...
vous n'estimez pas quand même que Marine Le Pen a raison dans un certain sens? Effectivement, son parti enregistre une défaite à la présidentielle, mais avec un score quand même très haut. Est-ce qu'elle ne mérite pas, est-ce que le Front National ne mérite pas d'avoir une meilleure représentativité à l'Assemblée?
Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est que ça fait des années, à chaque soirée électorale, on entend les représentants du Front National qui nous disent que le système politique...
Mais peut-être que cette question se pose un peu plus aujourd'hui.
Que le système politique est figé, qu'il n'y a que les socialistes ou les républicains qui peuvent avoir des élus avec le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours. À l'évidence, c'est faux, puisque nous avons montré, avec la création d'un mouvement dynamique et positif En Marche, qu'on pouvait avoir une majorité importante, une majorité absolue, avec un mouvement qui venait de naître. Donc l'argument du Front National est suranné. C'est une vieille grille de lecture, et je comprends qu'ils aient à le porter pour justifier leur échec. En revanche, vous posez la question de la représentativité de l'Assemblée nationale, et à l'évidence, c'est un engagement d'Emmanuel Macron, il a été rappelé cette semaine par Édouard Philippe, il va falloir introduire une dose de proportionnel pour faire en sorte que les différentes sensibilités puissent rentrer de manière plus nette au Parlement, dans la Chambre, pour pouvoir exister.
Donc ça, l'introduction d'une dose de proportionnel et la réduction du nombre de députés d'ici à la prochaine élection législative, ça fait toujours partie des plans?
Ça fait évidemment toujours partie des plans. C'est un engagement de campagne. C'est tout simplement parce qu'il faut recréer les conditions de la confiance, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les gouvernants et les gouvernés, et qu'aujourd'hui on doit moderniser notre vie politique, moderniser le fonctionnement institutionnel de la France, et ces mesures font partie évidemment des éléments qui pourront nous faire avancer en ce sens.
Guillaume Nodin, très rapidement, pour terminer, la suite, c'est quoi, un remaniement qui va arriver très vite?
Oui, des missions formelles du gouvernement, et puis un remaniement qu'on nous présente comme technique, avec peut-être l'ajout de quelques secrétaires d'État, et pourquoi pas qui viendraient d'autres familles encore, peut-être de la droite. On verra ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours.
Guillaume Nodin, merci. Merci aussi à vous, Hugues Rance, son nouveau député de la 13e circonscription de Paris. Merci Philippe Moreau, Chevrolet, politologue. Pour terminer cette heure d'information, le regard d'Arnaud Pontus sur ces législatives marquées par une forte abstention, on le disait.
C'est encore pire que la semaine dernière. Participation historiquement basse pour ce second tour des législatives.
Mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez plus?
C'est la star de ce soir, l'abstention.
C'est la star, l'abstention. Mais il n'y a pas de quoi se vanter.
Tu te sens pas un joueur?
Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple d'abstinents à 57%?
Je pense que c'est vraiment le résultat d'une lessiveuse électorale qui nous a fatigués, qui a fatigué beaucoup de Français pendant 10 mois.
J'en peux plus. J'en peux plus.
Et voilà, on a voté comme des bêtes pendant 10 mois. On n'arrêtait pas de débattre, primaire, préliminaire. Et puis là, c'est la panne.
Comme la semaine dernière, j'ai décidé de ne pas aller voter. J'ai été saturée par les présidentielles. Et plus de motivation pour y aller.
Non, attends, non mais c'est pas grave, elle n'est pas obligée de... si elle n'a pas envie.
Le désir, ça ne se commande pas.
Cette année, j'ai pas du tout voté.
C'est personne qui vous convainc?
Non, pas du tout, franchement, non.
On n'est pas des animaux, on a besoin de sentiments, on a besoin de tendresse, on a besoin de rêves.
C'est compliqué, hein, un électeur, c'est complexe ce qui se passe dans la tête d'un électeur. Ça veut pas dire qu'ils sont démobilisés.
Non, ça veut pas dire, mais là, de fait, on se retrouve avec un corps électoral tout mou.
En réalité, j'ai la faiblesse de penser que même ceux qui ne sont pas allés voter aujourd'hui ou qui sont plutôt passionnés par la chose politique.
Et c'est bien connu, c'est pas ceux qui en parlent le plus qui en font le plus. Et puis, il fait trop chaud.
Maintenant, c'est l'été, il fait beau, c'est la fête des pères, et puis c'est la fête de la lavande.
Et quand je pense à la fête de la lavande, je ne vais pas voter.
Peut-être que dans plusieurs décennies, plus personne ne votera aux élections législatives.
À la Désirade, il est bientôt 8h.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Arnaud Pontus, pour finir cette heure d'information et cette édition spéciale réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. Restez avec nous dans 30 secondes, un nouveau journal sur RFI.